Alors Clarisse Bérébi, je suis avocat au barreau de Paris, je suis membre du CNB. Je suis associée d'un cabinet qui s'appelle 1134 et qui est très positionné sur l'écosystème des startups.
Le rapport sur les quatre défis de l'avocat français du 21e siècle consacre un chapitre à la transition numérique. Quelle doit être la révolution numérique de l'avocat ? Et notamment, quel est son impact sur la profession, notamment entre la relation entre l'avocat et son client ?
Ce que je dis souvent, c'est que la révolution numérique, avant tout, ce n'est pas une révolution technologique. L'outil technologique, c'est en fait un peu la dernière roue du carrosse dans cette révolution. La révolution numérique, la vraie, c'est une révolution d'usage. Et la conséquence directe de ce changement d'usage, de cette façon différente de se comporter dans le monde, crée une nouvelle façon de consommer le droit. Donc ça, c'est véritablement important, c'est là que ça se passe. C'est une nouvelle façon, en réalité, une révolution d'usage, c'est une nouvelle façon de se former, une nouvelle façon de consommer et du coup, une nouvelle façon d'exercer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Une nouvelle façon de consommer le droit, pourquoi ? Parce que les gens, aujourd'hui, ont accès via ces outils technologiques, via cette révolution technologique et cette émergence à la portée de tous des données aussi importantes, notamment sur Internet, fait que les gens aujourd'hui sont informés différemment, disposent de l'information juridique, appréhendent du coup le rapport au sachant et à l'expert différemment d'autrefois. Dès lors, aujourd'hui, il y a une coexistence entre différents types de consommateurs de droits, de clients pour l'avocat. Il y a ceux qui sont un peu, je dirais, on ne peut pas dire comme avant, parce qu'il y aura toujours en fait cette coexistence de personnalités, mais il y aura toujours des gens qui se positionneront dans un rapport linéaire à l'information et qui nous considéreront comme des sachants, comme des experts, qui nous feront une confiance aveugle et qui rentreront dans nos cabinets avec l'objectif d'avoir une information juridique, d'avoir un conseil juridique, je dirais, descendant, du haut vers le bas, c'est-à-dire avec, comme on le faisait avant, les faits, le droit, la catégorisation des faits, du droit par rapport aux faits, etc. etc. Donc ce vrai conseil descendant de l'expert, du sachant, vers le client profane. Donc là, on a ce type de personnalité qui rentre dans nos cabinets. Et aujourd'hui, on a un nouveau type de client qui entre dans nos cabinets, qui a un rapport plus polychrone aux autres, hein, qui est plus dans la relation et qui va venir chercher autre chose. Son objectif va être de créer, de co-créer avec nous une solution juridique. Il ne nous reconnaît plus le statut de sachant et d'expert, mais en revanche, il considère que compte tenu de notre expérience, compte tenu de notre carnet d'adresses, compte tenu de notre influence dans un écosystème, on est la bonne personne pour l'accompagner à ce moment-là pour s'accélérer. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est ce rapport au temps. Ils ont besoin d'accélération, ils ont un rapport au temps qui est différent, qui est tout à fait différent de celui que nous connaissons. Et donc, ils ont besoin de s'accélérer et ils ne veulent pas perdre de temps. Et la remarque que l'on a souvent de ce second type de client, c'est que le mauvais conseil est celui qui va vous faire perdre du temps. Et c'est fréquent. Donc, ce qu'ils attendent de nous, c'est qu'on les accélère dans leur objectif. Donc, qu'on fasse le deal quel qu'il soit, qu'on obtienne le résultat vite, qu'on résolve le problème vite. Voilà, c'est vraiment ça l'objectif de ce nouveau type de client. Donc, c'est ça la révolution numérique. C'est des gens qui sont profondément immergés dans des données, dans de l'information quotidienne, qui se forment tout seuls, qui s'auto-forment sur de nombreux sujets, qui font plusieurs choses en même temps, qui ont un rapport au temps complètement différent, qui ne sont plus dans une linéarité et qui donc viennent pour trouver des niveaux d'accélération dans nos cabinets.
Justement, comment la profession doit-elle se positionner face à cet accès massif au savoir juridique, qualitatif et quantitatif, grâce à la technologie ? Et notamment, l'avocat doit-il revoir son système de facturation ?
Il est certain que la facturation au taux horaire n'est plus possible, pour la raison que je viens d'exprimer, puisqu'on n'a plus le même rapport au temps et qu'on n'est plus dans un conseil descendant où on va partir des faits et descendre jusqu'à la solution juridique en format legal opinion qu'on faisait autrefois et où on y passait X heures. De fait, on ne fonctionne plus comme ça, du moins pour certaines catégories de clients. Donc pour cette catégorie de clients-là, on ne peut plus fonctionner comme ça parce qu'on peut en un quart d'heure avoir un niveau de valeur ajoutée pour le client qui soit largement supérieur au temps que l'on a passé. Donc de fait, on ne peut plus fonctionner avec le système du taux horaire qui, en plus, n'est pas compris. La question que nous posent systématiquement nos clients, c'est quoi une heure d'avocat ? C'est quoi une heure d'avocat ? Ils ne sont plus du tout dans la même relation temporelle que celle dans laquelle nous avons grandi. Donc, de fait, on est obligé de revoir nos modèles économiques. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire du tout forfait. Ça veut dire qu'il faut revoir nos modèles économiques et ça veut dire qu'il n'y a pas une façon de faire. Le modèle économique classique du cabinet d'avocat qui consiste à rentrer un dossier, à traiter un dossier, à facturer un dossier au temps passé et à archiver un dossier, ce modèle économique est en train de disparaître progressivement. Donc maintenant, il faut qu'on imagine des nouvelles choses. Alors évidemment, ça va passer par le forfait, mais pas seulement le forfait. Il va y avoir pas forcément d'ailleurs des systèmes de quotality, c'est-à-dire d'honoraires de résultats, pas forcément. Ça va être tout simplement une autre façon d'accompagner et de réfléchir, de co-créer aussi avec le client la méthodologie de facturation. En tout cas, ça va être basé sur la valeur ajoutée. Et donc, pour revenir profondément à la question, avec la technologie qui est entrée chez nous, de façon tellement simple, mais avec des nouveaux usages, une nouvelle façon de fabriquer certaines choses, il va évidemment y avoir des tâches qui vont disparaître pour nous. Donc on va gagner du temps sur certains types de tâches, mais on va revoir notre niveau de valeur ajoutée. On va se repositionner à un autre niveau de valeur ajoutée. Un niveau dans lequel nous étions déjà, mais nous n'étions pas tous. Voilà. Donc on va tous devoir faire évoluer ce niveau de valeur ajoutée. Et c'est sur ce nouveau niveau de valeur ajoutée qu'il va falloir recréer nos modèles économiques et recréer nos modèles de facturation. Parce que de fait, même nos jeunes avocats qui entrent dans nos cabinets aujourd'hui et qui avant pouvaient passer énormément de temps à faire des due diligence, à faire des audits, c'est la même chose, à faire à rentrer dans des contrats, des coordonnées de clients, à faire des choses finalement qu'aujourd'hui une machine va faire à leur place, eux-mêmes, il faut leur apprendre autre chose. Et cette autre chose, elle va être plus tournée vers la façon de s'occuper du client que de faire du droit. Et je crois que c'est là où les choses vont être extrêmement complexes, parce qu'à l'université, on apprend encore beaucoup du droit, et on en parle beaucoup là, pendant cette convention, des soft skills et des nouvelles compétences de l'avocat qui, elles, ne pourront pas être remplacées par un ordinateur. Mais c'est là que ça va se jouer. C'est-à-dire cette capacité, très jeune dans la profession, à centrer son énergie sur le client et ses besoins plus que sur le dossier et la problématique juridique.
Face à l'arrivée des legal tech et des plateformes, on peut quand même se poser la question sur comment l'avocat va-t-il faire pour rester maître de son exercice professionnel.
Je ne crois pas que les legal tech puissent se positionner comme nos maîtres, entre guillemets, ou du moins qu'on puisse se faire ubériser, parce que finalement, c'est ça, je ne voulais pas utiliser le terme, mais voilà, c'est quand même plus simple. Je ne crois pas. Oui, bien sûr, c'est confortable de se positionner derrière une plateforme et de recevoir des clients comme ça et de les traiter. Et je suis certaine que ça va répondre aux besoins de certains confrères qui s'installeront et qui seront peut-être dépendants de ces plateformes. J'en suis certaine. Mais je crois aujourd'hui que ce qui est important, c'est de comprendre qu'on peut entreprendre autrement, qu'il y a énormément d'ouverture pour cette profession, notamment avec la loi de 2015 et les décrets de 2016 et 2017, dits loi et décrets Macron, qui donnent des opportunités nouvelles. Et je suis convaincue qu'avec ces nouvelles opportunités et un marché qui demande énormément de droits, qui est très, très, très avide de droits, on vit quand même plus que jamais dans un monde de droit, je suis convaincue que les avocats trouveront des nouvelles façons de se positionner en utilisant la technologie et même les legal tech qui vont se mettre au service des avocats en marque blanche, c'est évident à un moment donné, trouveront le moyen d'utiliser ces technologies pour leur cabinet et pour faire grandir leur cabinet et qu'on ne sera pas dépendant l'un de l'autre en réalité, ni eux ni nous. Le marché va se fluidifier. On a besoin de ces legal tech, on a besoin de ces gens qui vont passer du temps sur la technologie. La problématique, je me suis longtemps posé la question de savoir si les avocats devaient intégrer du développement dans leur cabinet. J'ai longtemps pensé que c'était utile. Je ne crois pas, en réalité, parce que ce n'est pas notre cœur de métier. Si on fait ça, on ne fait plus notre cœur de métier, qui nous occupait de nos clients. En revanche, travailler avec les legal tech en bonne intelligence, pour gagner encore en productivité sur les niveaux de d'intervention où on n'a plus besoin d'intervention humaine, ça, à mon avis, c'est intelligent. Et c'est cette bonne entente entre ces techniciens et les avocats qui va dessiner la profession de demain.
Pensez-vous que l'ensemble de la profession soit prête à cette transition numérique ? Et comment les futurs avocats doivent s'y préparer ?
Je pense que la profession, de façon générale, a conscience du changement, mais qu'elle ne réalise pas les impacts. Ça progresse. Moi, je parle de tout ça depuis 2008. En 2008, je me faisais insulter dans des salles de conférences, comme ici à la Convention. Aujourd'hui, c'est différent, on m'applaudit. Donc, j'interviens avec des gens qui disent la même chose que moi, et de plus en plus de personnes s'expriment sur ces sujets. Donc, je pense que la prise de conscience se fait, et aujourd'hui, ils ont conscience de ce qui se passe. En revanche, je ne suis pas certaine qu'ils savent quoi faire de ces informations. Donc oui, la profession a du mal à s'adapter, il y a une rupture, il y a une fracture numérique, et elle ne se situe pas au niveau des outils. Bien qu'il y a certaines personnes qui utilisent mieux les outils que d'autres, mais ce n'est même pas ça le problème. C'est vraiment la compréhension des usages et la façon dont le monde fonctionne aujourd'hui. Donc oui, il y a une fracture, c'est évident. Je suis certaine que la profession va s'adapter, et ça passe, à mon sens, par les écoles et par la formation des jeunes avocats. On a la chance d'avoir la main sur notre formation, c'est là qu'il faut mettre son énergie. Et je profite pour parler de l'ERAGE, qui est une des écoles d'avocats qui a vraiment entrepris cette question et qui travaille de façon admirable pour justement intégrer des nouvelles compétences aux jeunes avocats et leur donner la possibilité, au-delà de leurs compétences juridiques, de véritablement comprendre le nouveau monde dans lequel ils vont exercer la profession.